Dans ce nouvel épisode des Aventuriers engagés, nous invitons Marie Gendron, une navigatrice bretonne passionnée de voile depuis l'âge de 9 ans. Marie est devenue la seule femme dans sa discipline à avoir construit 2 prototypes, et tout ça dans le respect de la planète. Dans cet épisode, elle vous raconte son parcours et ses aventures en mer comme sur terre. Donc moi je suis Marie Gendron, j'ai 30 ans, je suis de la région nantaise. Et en ce moment, j'habite plutôt en Bretagne. Mes envies d'aventure, en fait, elles sont un peu venues quand j'étais petite, où je partais déjà avec mes parents sur un petit bateau. Je faisais 5,50 m, donc vraiment tout petit, et on partait à 3 dessus. Et pour moi, c'était déjà plein d'aventures que de partir en mer avec mes parents qui ne connaissaient rien à la voile. Et où j'ai tout appris avec eux aussi, on a tout appris tout ensemble en fait. Bah en fait je pense que mon engagement écologique il vient un peu justement du lien que j'ai pu faire avec tous ces moments que j'ai passés en mer et toutes ces découvertes que j'ai pu avoir. Bon j'ai aussi grandi en campagne, je pense que ça aide. vivre plutôt dans les champs et dans la nature, c'est sûr que ça forge aussi, c'est mon univers aussi, c'est mon environnement. Et du coup, forcément, quand on voit toutes les solutions, certains développements, les directions qui sont prises parfois par des initiatives collectives ou quoi, bon, bah, on a envie un peu des fois de les réorienter et de faire un peu plus attention aussi, de penser un peu plus à la nature et à qu'est-ce qu'on peut faire pour la préserver ou du moins ne pas trop l'impacter, avoir des activités qui réduisent un peu l'impact de l'humain, quoi, en fait. Alors, dans la vie de tous les jours, ça passe aussi un peu par faire des concessions, évidemment, puisque on dépend aussi, quand on habite en ville, on n'a pas de potager, donc déjà, ça peut paraître compliqué aussi pour se nourrir. Il faut faire un choix, il faut faire un choix aussi budgétaire, on ne peut pas acheter que des produits ultra bio tout le temps, donc c'est un peu un compromis déjà un peu tous les jours, mais déjà éviter de, par exemple le savon, ne pas avoir de bouteilles en plastique, mais uniquement à chaque fois prendre des savons tout simples dans ces petites boîtes en carton, déjà c'est plein de petits gestes au quotidien. Faire des soirées sans électricité aussi, soirée à la bougie, un bouquin, plus d'électricité. On coupe tout et on n'utilise pas les plaques électriques, on n'utilise pas, c'est retour au gaz. C'est plein de choses comme ça qui font prendre un peu conscience aussi de comment est-ce qu'on peut réduire un petit peu ou vivre un peu d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis après, moi, dans mon sport, en fait, là où j'ai voulu changer un petit peu deux, trois choses, c'est notamment utiliser d'autres fibres. Donc, par exemple, sur nos bateaux, ce sont des bateaux qui sont faits en fibre de carbone. Et donc là, j'ai fait le choix de changer la fibre de carbone là où on n'en avait pas besoin. Donc par exemple, une porte où moi je marche dessus, où mécaniquement on n'a pas besoin de résistance hyper forte. Là, j'ai changé la fibre et je l'ai passée en fibre de lin, ce qui n'était pas forcément évident d'entrée de jeu parce que c'est une nouvelle fibre, on ne sait pas trop comment elle se comporte. Est-ce que ça va quand même suffire? Est-ce que par rapport à son environnement, de la mer, l'eau salée, etc., est-ce qu'elle va tenir? Tout ça, c'est un peu faire un pari aussi et se dire, on tente, on y va, sachant qu'on est sur un bateau de course en plus, donc il faut que le poids reste quand même intéressant, et malheureusement, ce n'est pas le cas avec la fibre de lin, clairement. La fibre de lin, c'est une fibre qui est presque 5 fois plus lourde que la fibre de carbone, donc comment est-ce qu'on peut réaliser des pièces qui mécaniquement tiennent le coup quand même et n'alourdissent pas trop le bateau pour qu'il reste compétitif. C'était déjà un pari aussi, mais c'est quelque chose qu'on a fait là sur le bateau et on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait en mettre partout sans que ça impacte justement le poids du bateau de façon significative. Là, c'est complètement lissé en fait sur tout le poids du bateau au global. C'est le pari en fait qu'on a fait là sur le projet, sur ce projet de construction. Donc j'en suis assez contente parce que quand on est assis maintenant dans le bateau, en fait on voit plein de pièces en fibre de lin et ça c'est vraiment chouette quoi. Et pour autant ça reste un bateau qui va vite. Ouais, bien sûr je dis on parce que sans mes partenaires je pourrais pas refaire un projet comme ça. Et puis je dis on aussi parce que c'est un travail qui a été fait un peu en collaboration avec tout le monde, avec les équipes qui ont construit le bateau. Moi, j'étais chef de projet, du coup, de la construction du bateau, donc j'ai géré un petit peu tout le monde, mais pour autant, je peux plus mettre les mains dans ces matières-là, et notamment la résine, puisque maintenant j'en suis allergique, en fait, donc je peux plus y toucher. Donc il a fallu aussi faire confiance aux équipes, qu'elles soient capables, qu'elles arrivent à créer ces pièces-là, à les fabriquer, malgré tous les problèmes techniques que ça peut engendrer aussi, d'utiliser cette fibre-là qui boit énormément la résine, en fait, donc c'est compliqué de l'imprégner sans la gorger de résine. Enfin voilà, il y a plein de méthodes aussi à avoir. Et puis donc c'était une collaboration aussi avec l'architecte, évidemment, puisqu'il nous a quand même beaucoup aidé aussi sur où est-ce qu'on peut mettre de la fibre, quel pourcentage, avec quel drapage, quel design, comment est-ce qu'on va les mettre, quel échantillonnage, etc. Donc c'était un travail d'équipe, ouais, de toute façon. Ouais. Les habitudes, bah, en fait, je pense que dans le sport qu'on fait, là, donc la voile notamment, et en plus la course, je pense qu'on a déjà des habitudes, en fait, de vivre avec sans trop consommer. Là, par exemple, on va partir en septembre. Je rentrerai en France que début décembre et j'aurais vécu pourtant avec trois t-shirts, un short et une paire de chaussures. Et en fait, c'est apprendre à vivre avec le strict minimum et à retourner à l'essentiel, en fait. Quand on part, on a une quantité d'eau maximum qu'on peut emmener. Et c'est pareil, l'eau, on en prend extrêmement soin à bord parce qu'on n'a pas de dessalinisateur. Donc c'est que des bidons d'eau, on les matos, on les passe d'un côté, de l'autre, il faut pas que le bidon éclate, il faut pas que le bidon soit aux UV pour que l'eau ne tourne pas, etc. Enfin voilà, on fait à bord rien que l'eau, en fait, c'est con, mais c'est l'élément de base, c'est quelque chose qu'on a besoin de vraiment de base, c'est l'élément le plus précieux presque à bord. La nourriture, à la limite, ça vient en second, c'est vraiment l'élément le plus précieux. Donc voilà, en fait, on réapprend à revenir à la source, et à l'essentiel, quoi. Et en fait, on se rend compte que bah, dans des aventures comme ça, partir plusieurs jours en mer, hein, sur la Transat, là, en 2019, je suis restée 18 jours en mer. Bon, bah voilà, on revient en fait à l'essentiel. Pendant 18 jours, j'ai parlé à personne, j'étais sur mon bateau à transater et je recevais une fois par jour un bulletin météo. C'est le seul lien que j'avais avec la Terre, en fait. Moi, je pouvais pas communiquer, j'étais que en réception. Et voilà, et on fait avec ça. Et on compte bah, combien est-ce qu'il nous reste de nourriture, sachant que c'était prévu pour 16 jours à la base. Donc là, je me suis retrouvée à naviguer finalement 18 jours. Bon, bah voilà, en fait, on revient vraiment à l'essentiel. Et souvent, ça nous forme et c'est quelque chose qui nous poursuit un petit peu aussi à Terre. Quoi. Quand on rentre après d'aventures pareilles, qu'on se retrouve replongé dans le quotidien, avec tous les gens autour de nous qui parlent énormément, ça c'est déjà un premier truc, et tous ces modes un peu de consommation et des faits de mode, des faits de pub et de voilà de pousser à la consommation, c'est en fait, enfin moi ça, pour moi ça devient tout de suite une aberration et quelque chose qui me touche aussi, où je me dis mais pourquoi, enfin faut arrêter, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Donc voilà, c'est ouais non, c'est sûr que c'est un sport qui nous continue de nous forger un petit peu à terre aussi, quoi. Après j'ai pas particulièrement de tips ou de choses comme ça, c'est plutôt quelque chose en fait qui me fait vibrer de ne pas être touchée par des pubs type Black Friday ou choses comme ça, mais d'être touchée par des effets aussi type solde. En fait, moi je me sens pas impactée par tout ça parce que ça ne me touche pas dans le sens où je suis pas une consommatrice de par tout ce qu'il y a, tout ce que je fais aussi là à côté et tout ce mode de vie là. En fait, moi après voilà, tout ce qui est consommation, ces modes de consommation-là ne m'atteignent pas vraiment, quoi. Je suis vraiment plutôt du genre à user mes jeans et user mes vêtements jusqu'à ce que ça ne ressemble vraiment plus à rien et qu'on me dise « Non, là, fais quelque chose. » Et là, OK, je vais faire quelque chose. Mais sinon, en fait, je suis vraiment capable de garder un jean avec... Mais je l'ai encore là, d'ailleurs. Hein. J'ai encore un jean avec 1 million de trous que je mets pour faire du chantier. Et on me dit « Mais même pour du chantier, là, ce n'est plus possible. On voit tes fesses. » Alors, la nourriture à bord, on fonctionne surtout avec des lyophilisés et des apertisés. Donc, en fait, des aliments qui sont déshydratés, qu'on réhydrate, ou des aliments qui sont mis sous vide. Donc, ça, c'est des apertisés. Et donc, on fonctionne avec ça, mais pas que, hein. Enfin, dès qu'on peut prendre du frais, des fruits, même des pâtes fraîches, hein. Des fois, il y en a qui font ça aussi. Moi, je le fais pas trop, mais surtout beaucoup de fruits, en fait. Et puis, je me prive pas aussi de boîtes de conserve, de... Voilà, dès qu'on peut prendre du frais, en fait, on le fait. Et puis bah après on finit sur les apertiser, les lyophiliser quoi. Mais du coup bon bah c'est pareil dans un cas comme dans l'autre, bah il vaut mieux avoir de l'eau pour chauffer. En fait après on a un petit ce qu'on appelle un jet boil, en fait c'est un truc de d'alpiniste aussi hein, ils utilisent ça en montagne. C'est un petit bol avec une chaussette en néoprène par-dessus et une petite bouteille de gaz, voilà, c'est tout petit hein, ça et voilà, on fait chauffer de l'eau avec ça. Et puis bah on peut se réchauffer un peu, deux, trois choses à manger avec ça quoi. Il faut matosser chaque chose qu'on embarque. Bon, c'est du poids, donc moins on en emmène et plus on a de chances de gagner par rapport aux copains. Donc on est vraiment, voilà, on est vraiment dans le système inverse quoi. Moins on en a et plus on a de chances de gagner. C'est quand même, c'est un thème d'ailleurs sur lequel on avait un peu discuté aussi avec mes partenaires une fois. Mais voilà, c'est chaque chose est essentielle, la moindre lampe torche, la moindre pile, la moindre, enfin tout ce qu'on veut, le moindre couteau, la cuillère, on n'en a qu'une quoi, faut pas la perdre, quoi. On n'en a qu'une. C'est voilà, c'est on peut pas avoir de les seules choses en double qu'on peut avoir éventuellement, c'est la frontale. Ça c'est vrai que si on la paume, c'est quand même chiant. Et encore, franchement, la frontale, bah, on apprend vite à, en fait à ne plus utiliser de lumière électrique la nuit, parce que en fait on se rend très vite compte que le corps se réadapte à son élément et on est plus ébloui en fait à utiliser une lumière qu'à regarder en fait simplement sans lumière la nuit. On voit très bien en fait et le corps se réadapte vraiment très vite et c'est impressionnant. Et c'est pour ça que maintenant, même quand je fais des runnings où on se retrouve un peu dans la pénombre parce qu'il est un peu tard et qu'il n'y a plus de lumière, quelqu'un qui passe en face de moi avec une lumière électrique, mais ça me défonce les yeux parce que moi je bah, j'en utilise pas quoi. Donc en fait on voit très bien hein, sans ça. Donc voilà, faut juste en fait se réadapter et laisser le temps aussi au corps de se réadapter à son univers quoi, au milieu qui l'entoure. Mais ça marche très bien. Alors bah moi le lien avec la Water Family, en fait il me paraît déjà très logique, sain et cohérent, dans le sens où mon environnement, c'est la mer, donc c'est l'eau. Et comme bah, je le disais tout à l'heure, c'est pareil, un des éléments les plus importants sur nos bateaux pour notre survie, bah, c'est l'eau aussi. Donc il y a déjà, rien que par ça, il y a déjà beaucoup de liens. Et puis, bah, tout simplement aussi, je trouve, enfin, l'association a des actions qui sont, je trouve, très concrètes et très, très comment dire, sensibilisante. Enfin voilà, ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes et je trouve que toutes les actions sont super intéressantes et ce sont des belles actions. Donc voilà, je trouve que c'est une cause en tout cas qui me tenait à cœur et qui me paraissait très évidente et logique en fait par rapport à un projet comme le mien. Donc je suis très contente en tout cas de soutenir l'asso et de continuer. Enfin moi c'était un vrai plaisir là de pouvoir partager avec tous les enfants que j'ai rencontrés du coup là en octobre dernier, où voilà, ils étaient presque 98, donc une centaine d'enfants qui ont découvert un petit peu tout ce qui est aussi l'environnement marin via mon projet et du coup tout ce qui est en lien avec l'eau et donc voilà hein, de l'eau douce à l'eau salée, il y a un parcours et comment est-ce qu'on fait pour justement pour conserver l'eau, pour ne pas l'impacter, etc. Enfin voilà, c'est super intéressant. Et moi, j'aime beaucoup ce lien et cette pédagogie avec les enfants aussi. Donc, c'est voilà, il y a beaucoup de cohérence en fait. Et pour moi, c'est très chouette de pouvoir avoir cette connexion-là avec Water Family. C'est cool quoi. En fait, moi, c'est un deuxième bateau là que j'ai construit. J'en ai construit un déjà quand je faisais les études. Et là, c'était mon deuxième bateau. Et justement, j'avais envie de le faire de façon un peu différente, etc. Donc ils trouvaient le projet aussi chouette, quoi. Mais bon, voilà, il fallait trouver des partenaires. Et donc, j'ai pu en trouver. Et parmi mes partenaires, donc notamment la SNCF, qui me suit déjà depuis 4 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Même 5 ans. Ils ont donc été aussi très touchés par les actions Water Family et ils se sont dit, bah, nous aussi, on a envie de participer. Donc en fait, toutes les actions qu'on a pu faire pour le moment, c'est grâce à la fondation SNCF. Et donc Kéréis, maintenant aussi, devrait participer aussi à des actions aussi l'année prochaine. Donc voilà, il faut juste trouver les bonnes dates, quoi, pour qu'on soit tous dispo. Mais voilà. Alors, ma prochaine aventure, donc, c'est la mini transat en 2023. Elle part en septembre et on part des Sables-d'Olonne, on va aux Canaries. Et après des Canaries, on va jusqu'en Guadeloupe sur nos petits bateaux qui font 6,50 m de long. Donc on n'y va pas en mode croisière évidemment, on y va en course. Et donc là où on se prépare en fait pour cette course-là, c'est d'avoir le bateau le plus fiable possible. Et l'équipement aussi, notamment le pilote automatique et tous les équipements qui vont autour, qui soient aussi fiables. Et donc ça, c'était un peu le challenge de cette année, d'avoir un bateau qui navigue et de le fiabiliser, de mettre le pied dedans, de voir jusqu'où il va, quelle vitesse, etc. Et là, ça va être l'objectif de l'année prochaine, donc pour 2023, où on va être là plutôt pour la perf, donc faire de la performance. Donc là, il va falloir aller s'entraîner. Je vais aller me comparer par rapport à d'autres bateaux, à mes concurrents qui sont là aussi et qui s'entraînent. Et voilà, et là, ça va être la bataille sur l'eau pour être le plus vite possible. Et ça se joue vraiment dans des manœuvres propres, des réglages du bateau propres. Voilà, enfin, il faut que tout soit rigoureusement bien fait, bien exécuté et que tout marche aussi à bord, quoi. Donc, il y a une préparation physique, ça c'est clair, parce que c'est des bateaux qui vont quand même vite et physiquement c'est assez. Il faut quand même être solide. Il faut être agile aussi, ça aide. Donc préparation physique, on va pas trop picoler pendant Noël, ça c'est voilà. on a une préparation aussi, voilà, qui est un peu. Je pense que je vais faire un peu de coaching mental parce que c'est assez dur quand même quand il y a beaucoup de concurrents, qu'on fait une erreur et qu'il y en a 10 qui nous passent devant. C'est voilà, il faut rester mentalement fort et surtout tant que la course n'est pas finie, tout peut arriver. Ça, il faut vraiment le garder dans la tête. Et puis bah, après il y a une préparation aussi hein, donc du matériel et de la stratégie en fait de son matériel. Donc quand je dis ça, c'est surtout le dessin des voiles, la forme des voiles, qu'est-ce qu'on emmène aussi en plus pendant un long voyage comme ça. Il y a des capteurs par exemple que je vais dédoubler dans mon bateau, des capteurs de vent, des capteurs des pilotes aussi, voilà, je vais rajouter un pilote. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Et c'est un marathon, en fait. C'est un marathon qui a commencé déjà là, il y a un an. Voilà, avec dès la construction du bateau, on était déjà sur le marathon, en fait. Donc je vais quand même faire une petite pause là, histoire de se reposer un peu. Mais voilà, là, bah, typiquement, là, le sommeil fait partie aussi de cette préparation pour cette course-là. Donc en ce moment, faire son stock de sommeil et hiberner un peu, bah, en fait, ça fait partie du job. C'est cool, tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que faire le stock de sommeil là en ce moment, ça fait partie de la préparation aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est une préparation qui est un peu un marathon, qui est assez long, effectivement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Oui, donc ça, c'est ma prochaine aventure. Et il y en aura peut-être une autre aussi, on va voir, peut-être sur quelque chose de moins, d'un peu moins loin, mais qui serait tout aussi fun. Et on verra ça, comment est-ce qu'on peut la mettre en place. Mais ce serait de faire le tour de Bretagne avec un catamaran de plage. Donc, tour de Bretagne, c'est partir de Saint-Malo et faire la boucle côté mer, côté terre, par les canaux, et revenir à Saint-Malo. Voilà, on verra bien. Là aussi, il y a petit challenge, parce qu'un cata de plage, bah, c'est pareil, ça va demander de la préparation. Comment est-ce qu'on s'équipe, comment est-ce qu'on gère un peu aussi notre sécu pour les passages des caps les plus difficiles, enfin voilà, qui sont normalement interdits pour des cata de plage, hein, enfin, c'est parce que c'est trop dangereux. Donc voilà, ça peut être aussi le petit challenge. Et puis après, comment est-ce qu'on fait sur les canaux, avec les ponts et tout ça. Donc ouais, non, ce sera la deuxième petite aventure dans l'aventure. En fait, moi, ce qui me motive à revenir, c'est que j'ai une revanche à prendre. Donc la motivation de la revanche, elle prend bien aux tripes, ouais, elle me donne bien de l'énergie. Parce qu'en fait, en 2019, donc quand j'ai fait ma première transat avec mon premier bateau, la première étape de la transat, donc on est parti de La Rochelle, on allait aux Canaries, j'ai réussi à être quatrième. Donc c'était, enfin sportivement, j'étais quand même déjà assez contente parce que c'était quand même une grande première. J'avais jamais fait de course au large particulièrement. J'étais sur un bateau qui n'était pas un des derniers bateaux les plus rapides non plus de la flotte. Enfin voilà, donc j'étais quand même assez contente. Et malheureusement, sur le départ de la deuxième étape, j'ai un élément central du bateau, hein, qui est la quille du bateau. La quille était en train de s'ouvrir en deux, donc j'ai dû faire un retour, réparer. Je suis restée 24 heures en escale et je suis repartie derrière tout le monde. Après tout le monde, il n'y avait plus personne. Enfin voilà, donc c'était. Et avec une quille qui pouvait lâcher en fait à n'importe quel moment, en plein milieu de l'Atlantique, elle pouvait me lâcher à n'importe quel moment, quoi. Donc c'était un peu dur psychologiquement et du coup j'avais bien bien envie de revenir reprendre ma revanche avec un bateau plus puissant et du coup cette expérience-là qu'elle me permette d'aller plus loin et dans l'apprentissage et plus vite sur l'eau, enfin bon voilà quoi, et de repartir sur cette transat pour me venger. C'est vrai que 18 jours sans parler à personne, il faut avoir une vie intérieure, sinon c'est long. Heureusement, mes parents m'avaient fait un petit sac de cadeaux où je pouvais. C'était tous les jours une petite surprise, donc ils avaient fait en sorte que ce soit que des trucs super, super, super légers. Et dedans, je crois que le meilleur truc, c'était les Scooby-Doo. Et quand. C'était un peu mon calendrier de l'avant de Transat. Et quand j'ouvrais la petite porte et que j'avais mon Scooby-Doo, j'étais trop contente. Non, mais c'est vrai que la solitude. Voilà, il faut. Enfin, à quel moment, là, dans nos quotidiens, on reste 18 jours sans parler à personne? Jamais. Donc c'est vrai que c'est une expérience à vivre parce que bah on passe par des hauts, des bas. Enfin voilà, c'est émotionnellement c'est les montagnes russes. Et justement c'est là où je pense que mentalement il faut rester fort dans le sens où il faut pas faire les montagnes russes. Il faut avoir le moral stable pour rester lucide et vite sur l'eau. Et voilà ça c'est un c'est je pense que c'est très intéressant à faire comme travail. Rester aussi longtemps sans parler à personne c'est bizarre, du coup, après, quand on revient et qu'on voit tout le monde, on se dit, ah, tiens, c'est plus trop parler. Mais voilà, la solitude, ça, moi, ça, à la limite, ça me dérange pas trop. Il y en a pour qui c'est trop compliqué. Moi, ça va. C'est pas trop ce qui me fait peur, en tout cas. Quand on a trop l'esprit compétiteur, c'est compliqué aussi, du coup. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là où il y a un apprentissage à faire parce qu'il y a plus de concurrents aussi. Et il y a plus de machines qui vont vite aussi. Donc, quand on vient avec un esprit de revanche, une machine qui va plus vite, mais plus de concurrents, bon voilà, c'est la guerre va être ouverte. Donc, ça va pas être facile. Mais non, non, sinon la solitude. Enfin, moi, seule en mer avec mon petit bateau, je me sens pas seule du tout en fait. Je suis là avec mon petit bateau, mais à aucun moment j'ai. Enfin, à aucun moment, si, mais j'ai pas cette sensation de solitude comme on pourrait avoir en plein milieu de la forêt, de nuit, tout seul. Là, j'ai la sensation de solitude, ouais, où je suis pas très à l'aise. Mais en mer, de nuit, avec un bateau qui va à Mach 12 et moi dessus, je suis trop bien, quoi. Ça, c'est mon élément. J'ai commencé la voile à 9 ans. Ouais, 9 ans, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc j'étais avec mes parents, et puis après, assez rapidement, en fait, j'ai commencé à faire un petit peu de voile en compète, mais pas tout le temps, parce qu'on n'avait pas ça à l'école, en fait, donc je pouvais pas en faire suffisamment. Puis bon, c'était cher aussi. Donc en fait, j'ai basculé en monitrice de voile assez rapidement, comme ça me faisait mon petit job d'été, c'était quand même plutôt, plutôt sympa. Et puis c'est assez plus tard en fait où quand je commençais à avoir un petit peu plus d'argent où j'ai fait de la compétition et là du coup c'était plutôt en hobby 4-16 où je m'entraînais dans le golfe du Morbihan et là on a commencé à faire tous les championnats de Bretagne avec mon équipier et enfin avec mon barreur du coup et là j'ai commencé à vraiment vraiment apprendre ce que c'était que la compétition et c'était en plus de naviguer dans des endroits incroyables parce que le golfe du Morbihan c'est quand même un terrain de jeu qui est absolument splendide, en plus d'être très difficile puisqu'il y a énormément de courants en fait dedans. Donc c'est génial parce qu'on apprend, on apprend en version miniature des effets de site, des effets de courant qu'on retrouve après en pleine mer dans des environnements qui sont absolument immenses. Donc c'était très formateur. Et puis après, donc j'ai continué en J80 avec un parcours aussi de compétition en J80 en équipage. Mais bon, c'était toujours l'équipage, quoi. Donc l'équipage, on est cantonné à une tâche, on dépend des autres. Voilà, tout ça. Et moi, ça fonctionnait pas trop, quoi. Donc, ça fonctionnait évidemment, mais moi, je voulais tout faire, en fait, et je voulais être totalement autonome. Donc forcément, ça collait pas. Et en tout cas, j'avais pas envie de continuer de poursuivre dans cette voie-là. Et c'est ce qui m'a poussée, en fait, à un moment donné, à me dire, bon, je vais me construire mon bateau, et puis comme ça, je serai peinard. Et donc, j'ai vu que il y avait des mini... Donc, dans cette classe de bateaux-là, qui s'appelle les mini 650, il y a eu plein de gens, en fait, à construire leur bateau et à traverser l'Atlantique. Et en fait, c'est un peu l'âme et le cœur de cette classe-là. Et je me suis dit, c'est génial, ce truc. En plus d'être évidemment relativement inspirée par les grands marins tels que Michel Desjoyeaux et tout ça, je me suis dit, allez, banco, on va tenter l'histoire là-dedans. Et en fait, donc c'est là que je me suis retrouvée à 18 ans pendant mes études à l'université, là, à proposer aux enseignants, à leur dire, écoutez, moi j'ai envie de construire un bateau. Voilà quoi, est-ce que ça vous dit? En fait, on devait faire des unités d'enseignement. On devait faire un projet à réaliser en autonomie, en groupe, et à le présenter à la fin de l'année. Mais comme ça, toute l'année, on était autonome. Et en fait, dans la liste des projets, moi, du coup, j'ai proposé de construire un bateau, quoi, carrément. Et du coup, ils m'ont dit, ok, mais sous certaines conditions, qui étaient de trouver un moule, de trouver des plans, etc., etc. Mais en fait, j'avais déjà réfléchi à tout ça il y a déjà un petit bout de temps. Et je leur ai trouvé tout ça en l'espace de 2 semaines, quoi. On dit bon bah ok c'est parti quoi donc on s'est retrouvés, on était 18 étudiants à l'IUT à Nantes là à construire un bateau quoi. Donc ça c'est vraiment le tout début d'histoire quoi. Et en fait ce bateau j'ai commencé donc en 2012, je l'ai mis à l'eau en 2017 et j'ai fait la transat en 2019 avec. Donc j'ai mis 5, 6, 7, j'ai mis 5 ans pour le construire quoi, un petit peu plus quoi. Parce que j'y connaissais rien en fait, le composite, j'y connaissais rien du tout, j'avais pas d'argent, ça a toujours été à la débrouille, dès que je trouvais le moindre sou, c'était pour aller dans le bateau. Donc voilà, ouais, c'était un projet qui m'a quand même occupé déjà 10 bonnes années de ma vie, quoi. On a bien envie d'y retourner, ouais. Surtout que là, j'ai vraiment la chance en fait d'avoir 3 beaux partenaires quand même, parce que Léa Nature, c'est une très belle entreprise qui a des valeurs très fortes justement dans tout ce qui est environnement, écologie et tout ça. Et donc moi, je m'y retrouvais beaucoup en fait aussi dans toutes leurs valeurs. Et c'est là où on vibrait de la même façon, quoi. C'est la philosophie du projet leur a plu et ce qu'on a vraiment envie de faire concrètement leur plaisait aussi parce que... on a ces valeurs-là aussi en commun. La SNCF, qui est toujours mon partenaire qui a re-signé sur ce deuxième projet. Autant sur le premier, ils étaient super contents de voir un petit bout de femme qui mettait une énergie de dingue. Autant là, ils en sont contents. Et en plus, se rattachent aussi à ces valeurs-là. Puisque eux, avec les trains, c'est pareil. En fait, on est sur du zéro émission. Et c'est aussi leur politique et leur engagement. Ça, c'est ça, ils s'y retrouvent aussi énormément. Et puis donc Kéréis, donc anciennement CBP France, qui s'y retrouve aussi pour tout ce qui est audace, tout ça. Ils ont aussi beaucoup de valeurs attachées à ce projet. Là, j'ai vraiment la chance d'être dans un projet cette fois avec 3 magnifiques partenaires et un bateau flambant neuf, hyper puissant. Ça va être à moi d'être. Ça va être à moi de jouer, quoi. J'ai un peu la pression. T'as plus d'excuses. C'est un bateau qui gagne déjà les 3 éditions de la Mini Transat avec des skippers différents. Pas d'excuses, quoi. On sait que la machine va bien. Maintenant, c'est un sport, c'est de la mécanique. On est dans un environnement en plus naturel qui est pas évident. Voilà, c'est. Tout peut arriver. Et puis la concurrence, mine de rien, a inventé aussi 2-3 trucs là qui vont vite aussi. On va voir ce que ça va donner. Moi, ce que j'aurais à dire aux autres générations qui ont envie et qui n'oseraient pas, bah justement, c'est oser, quoi. Oser réaliser les choses qui vous font peur ou les choses qui vous donnent envie, quoi. Oser, parce qu'en fait, c'est magique et on se réalise dans tout ce qu'on fait et se réaliser encore plus dans nos rêves ou dans nos peurs, ça nous fait vivre, ça nous fait sentir vivants énormément. Ouais, la première transat, ça a été. La première transat, en fait, c'était bizarre parce qu'il y avait un sentiment d'aboutissement énorme, quand même. De construire son bateau, de se lancer dans un truc où on n'y connaît rien, de faire sa première transat. Tout était une première fois, en fait. Donc, et de choses qu'on a beaucoup, beaucoup mentalisées avant, qu'on a beaucoup imaginées, où on a beaucoup eu la trouille aussi. Enfin, moi, j'ai le nombre de cauchemars que j'ai fait où le bateau était retourné, où je coulais. Enfin, bon, voilà, je les ai eues aussi. Et donc, c'était un aboutissement déjà, une sensation d'aboutissement énorme, enfin, un soulagement, quoi. Voilà, l'aboutissement, le soulagement. Mais en même temps, le fait de vivre cette quatrième place sur la première étape et de rater, entre guillemets, hein. Enfin, malheureusement, c'est les jeux de la joie du sport mécanique, bah, ça, voilà, ça donnait un goût quand même, il y avait une amertume, quoi, dans cette arrivée-là et dans cette fin de course-là. Donc, bon, c'était pas, c'était de la joie, mais pas que, c'était une joie amère. C'est un peu particulier. Donc, c'est un peu particulier, mais pour autant, j'ai su quand même prendre du recul et me rendre compte que déjà, enfin, être allé jusqu'au bout, avoir pu me présenter sur le départ de cette course et être à l'arrivée, il fallait déjà, pas s'en contenter, mais en être très, très heureuse parce que même si on avait beau me leur dire, mais c'est un truc de fou, mais c'est un boulot immense, mais tu donnes tout là-dedans, je me rendais pas très compte, quoi, je me rendais pas trop compte. Et en fait, oui, effectivement, c'est un engagement en fait qui est monstrueux. Mais bon, quand on aime et qu'on est passionné, évidemment, on ne compte pas. Merci d'avoir écouté cet épisode produit par la Water Family, association de sensibilisation à l'écologie depuis 2008. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à très bientôt.